La vie des pays au son de la pop et du rock dans le Tarn. La vie des pays, CFM.
CFM Radio, c'est Jacques, bonjour, vous écoutez le Mag du Tarn et aujourd'hui dans ce magazine nous allons parler du projet d'une école démocratique dans notre département. Qu'entend-on par école démocratique? Quelle est la grande différence avec, on va dire, une école ou une scolarité standard? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons à Claire Bataillé, qui est notre invitée aujourd'hui. Mais avant de retrouver et de discuter avec Claire pour nous intéresser à ce sujet, nous avons sur CFM accueilli, il y a plus de 2 ans maintenant, un réfugié américain installé en France depuis plusieurs décennies et qui, une fois par mois, intervient sur le 94.7 où il officie aux manettes de l'émission Le Bruit des Autres. Le dernier numéro était spécialement consacré à la guitare acoustique parce que dans cette émission, eh bien, on parle de musique, plutôt blues, jazz et swing. Et Jeff, pour ne pas le citer, profite de la belle ambiance musicale pour glisser ses coups de gueule. Et cette fois-ci, ce sont les sénateurs qui en ont pris pour leur grade.
Ça vous a peut-être échappé, ce qui n'a rien d'étonnant, soit dit en passant, mais... On a voté pour la moitié des sièges du Sénat le dimanche 24 septembre. Enfin, quand je dis « oh », je ne veux pas dire « nous hein ». Nous, les gars, n'avons pas vraiment notre mot à dire. Les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Tout le contraire de toi, petit que tu es. Dans chaque circonscription, le collège électoral est formé de députés, de conseillers régionaux, conseillers départementaux, les conseillers municipaux et bla, et bla, 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 et on s'en fout. Et on s'en fout parce que si les sénateurs ne votent pas une loi, s'ils ne sont pas d'accord avec l'Assemblée nationale, cette même Assemblée nationale la votera quand même et le Sénat n'a d'autre droit que de fermer sa gueule. Oh bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire, Zima, que nous, les contribuables, payons 350 millions d'euros chaque année! Tous les ans, 350 millions d'euros pour des gens qui ne servent à rien, que chaque mois, chaque sénateur touche 5 400 euros net et qu'il ou elle dispose d'un crédit mensuel de 7 600 euros tous les mois pour payer une équipe, laquelle équipe peut être logique, en toute logique, hein, qualifiée de totalement futile au vu de la parfaite futilité de l'existence des sénateurs eux-mêmes. C'est ça ce que tu essaies de dire, Jeff? Tu essaies de dire aussi que les sénateurs disposent de quelques menus avantages en nature, par exemple du matériel informatique, un forfait téléphonique, des frais postaux, une carte gratuite des transports pour la région parisienne, une carte d'accès gratuit et illimité au réseau SNCF en première classe, s'il vous plaît. Et comme si ça ne suffisait pas, 40 allers-retours en avion par an. Tous les ans, 40 allers-retours en avion entre Paris et leur circonscription, des frais de taxi, un possible véhicule de fonction. Et enfin, pour les jours de séance, les sénateurs peuvent faire rembourser leur hôtel. C'est ça ce que tu veux dire, Jeff? Et qu'ils ont tout ça, alors même qu'ils n'ont aucun pouvoir législatif? Mais alors... Alors pourquoi qu'on les paye tout ça si leurs existences sont aussi inutiles, insignifiantes et vaines qu'un cerveau au Front National, hein? Facile, moi j'ai la réponse, on les paye parce que, avec leurs petits copains, députés et autres ministres et présidents, ils décident quoi faire avec nos impôts. Hey, c'est un petit peu comme dans l'ancien régime, tu sais, avec les rois, la con, les princes, les ducs et l'aristocratie et tout ça. Toi, tu trimes comme 4 pour joindre les deux bouts. Et eux, eh ben, ils sont perchés là-haut à profiter grassement de ton travail et la richesse que tu crées. Et tu n'as d'autre droit que de voter utile et de fermer ta petite gueule. Et bienvenue dans la France républicaine.
Retrouvez le bruit des autres tous les derniers jeudis du mois à 20h, rediffusion le dimanche qui suit à 16h et le mercredi de la semaine d'après à 13h. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Eh bien, rendez-vous sur le site internet de la radio pour retrouver aussi le bruit des autres en podcast. Bien. Après, on va dire la politique, passons à un sujet beaucoup plus sérieux que ça. On va parler maintenant d'éducation et d'école alternative avec Claire Bataillé, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci d'être là. Tu es avec nous pour nous présenter le projet d'une école démocratique dans le Tarn, une forme d'éducation qui prône l'apprentissage, on va dire quoi, libre et autonome des enfants. Quelle est ta définition, toi, de l'école démocratique?
Pour moi, une école démocratique, ça repose sur deux piliers principaux. Le premier, c'est de donner le choix aux enfants des apprentissages qu'ils réalisent. Et ça peut se faire sous diverses formes, mais du coup, l'idée, c'est vraiment de redonner à l'enfant le pouvoir de choisir ce qu'il apprend, avec qui, comment. Et le deuxième pilier, c'est l'idée que l'école soit aussi une communauté démocratique où les membres, enfants et adultes, puissent décider ensemble du fonctionnement, des règles et du coup de comment intégrer les enfants et aussi les adultes, parce que en fait dans l'éducation nationale il n'y a pas forcément non plus une grande implication de tous les adultes de l'école dans la vie démocratique de cet établissement et du fonctionnement quoi.
Bon, alors avant que des auditeurs changent rapidement de fréquence, et c'est peut-être trop tard, parce qu'ils ont peur de se dire qu'ils sont en train d'écouter une fanatique ou des fanatiques d'extrême gauche, il faut souligner que les écoles démocratiques forment un réseau aujourd'hui dans toute l'Europe, donc ce n'est pas une lubie ou une utopie.
Ah oui, non, ça existe depuis longtemps, et en Europe, ça fait la première école, elle a plus de 100 ans, elle est toujours en activité, et puis il y en a d'autres qui sont là depuis plus de 30 ans, dans le monde aussi, et on a un réseau qui se structure en France depuis 2 ans, avec une trentaine d'écoles ouvertes aujourd'hui, et puis des projets en cours comme le nôtre, un peu partout en France, quoi.
Il y en a pas mal. On sort de cette école avec des diplômes?
On peut passer le bac, ou si on veut le passer en candidat libre, comme on peut le faire n'importe où. Okay. Quoi.
Les différences fondamentales avec les écoles, disons, normales, c'est quoi?
En fait, pour moi, la différence fondamentale, c'est notamment la question du programme. C'est-à-dire que nous, on renonce à dire qu'à tel âge, il faut apprendre ça et qu'à tel autre âge, il faut apprendre ça. Parce qu'on pense que tous les enfants n'avancent pas au même rythme et que leurs intérêts diffèrent aussi et que les forcer à s'intéresser à quelque chose qui les intéresse pas, c'est le meilleur moyen de les couper de tout leur mécanisme d'apprentissage biologique et puis de tout leur curiosité et de leur élan dans la découverte du monde. Et du coup, l'idée c'est qu'en renonçant au programme, en permettant aux enfants de choisir ce qu'ils apprennent. Alors après, il y a plusieurs formes. Il y a des formes où il y a des cours proposés, des ateliers proposés, et puis d'autres formes où il y a pas du tout de cours. Mais dans l'idée de permettre aux enfants de faire ce choix-là. Et du coup, ça implique aussi dans ces écoles qu'il y a un mélange des âges, c'est qu'on n'est plus en train de faire des classes par tranche d'âge, et que du coup, tous les enfants de tous les âges sont réunis, et voilà, ils décident si ce qu'ils veulent faire ensemble ou pas. Et du coup, c'est assez riche parce qu'il y a des interactions hyper intéressantes entre petits et grands qui n'existent pas dans l'éducation nationale, ou qui existent à petite échelle, c'est-à-dire il y a des classes uniques, notamment en primaire, qui existent dans l'éducation nationale et qui prouve à quel point c'est riche, à quel point les grands ils apprennent des petits, les petits ils apprennent des grands, qu'il y a de l'entraide, qu'il y a de la coopération naturelle en fait qui s'installe, et en fait nous l'idée c'est de pouvoir le générer aussi au collège et au lycée.
Moi je reviens sur la notion du choix, le choix fait par les enfants pour apprendre telle ou telle chose. À partir de quel âge vous estimez qu'un enfant est à même de choisir d'apprendre à lire, à écrire ou à compter?
En fait depuis sa naissance, un enfant, il apprend et il découvre le monde et puis il fait des choix de ce qui l'intéresse. C'est-à-dire que peut-être il va aller jouer avec des cubes ou il va peut-être aller jouer avec des tissus, j'en sais rien, quand il est bébé. En fait, les choix, ils se font au fur et à mesure de
leur éveil et de leur maturité.
C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que les apprentissages de base dont toute personne a besoin pour vivre en société, pour s'épanouir, pour apprendre à interagir, à prendre des décisions. En fait, c'est exactement comme l'acquisition du langage. À partir du moment où on est intégré dans un environnement où il y a du langage, il y a cet élan de s'intégrer, de participer à cette société. Et du coup, l'enfant, il apprend tout seul. On ne lui apprend pas à parler. ben c'est pareil, en fait, on n'a pas besoin de leur apprendre à lire. Ils vont apprendre à lire, et en fait, c'est ce qui se passe. Et on a plein d'exemples qui montrent que qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à lire pour que les enfants sachent lire.
Donc, selon vous, dans les écoles dites normales ou standards, il y a beaucoup trop de barrières, beaucoup peut-être un couloir où on amène les gens d'un point A à un point B, c'est ça ?
Bah oui, et du coup, forcément, tout le monde ne s'y retrouve pas, et puis ça crée du mal-être, en fait. Enfin, il y a beaucoup de stress à devoir se conformer à des attentes, à devoir... entrer dans un moule qui ne nous correspond pas forcément, dans des méthodes qui ne nous correspondent pas forcément, et d'être en plus comparé en permanence avec les autres à côté de nous.
Une espèce de compétition, selon vous, peut-être ?
Oui, complètement.
Bon, Claire Bataillé est notre invitée aujourd'hui. Nous parlons du projet d'une école démocratique portée par une association, ou plutôt une collégiale de parents, qui espèrent voir aboutir leur projet pour tout bientôt dans le temps. Le MAC se poursuit avec maintenant un titre de Mélanie de Biasio, c'est Gold Junkies, et c'est une nouveauté sur les ondes de CFM. C'était le titre Gold Junkies de Mélanie de Biasio, suite du MAG, toujours en compagnie de Claire Bataillé, avec qui nous parlons d'une future école démocratique peut-être, hein, dans le Tarn. Une école où le système scolaire donne plus d'autonomie aux enfants. Les enfants choisissent aussi une bonne partie de leur programme. Claire, quel est le rôle des adultes du coup dans tout ça ?
Alors le rôle des adultes, il est... par rapport aux enfants, il est de les accompagner à découvrir ce qui est bon pour eux et puis ce qui là où ils veulent aller. En fait, l'idée c'est de dire que chaque personne et donc chaque enfant aussi sait ce qui est bon pour lui, et juste parfois on a besoin d'interagir pour voir où c'est qu'on en est, et puis pour voir qu'est-ce qui nous tient à cœur et comment j'avance et de quoi j'ai besoin pour avancer. L'idée c'est c'est vraiment d'être des accompagnants dans ce chemin vers les adultes qu'ils ont envie de devenir. Et après, l'autre rôle, c'est effectivement de faire vivre l'école et de la maintenir, enfin voilà, la faire vivre administrativement, de remplir tout ce qu'on demande.
Mais du coup, est-ce qu'on parle véritablement de professeur, d'instituteur de...
Alors, nous, on parle de facilitateur d'apprentissage.
Ouh là là, c'est plus long.
c'est
plus long.
Mais en fait, l'idée, c'est aussi d'interagir de personne à personne et de permettre aux enfants d'avoir des adultes à qui ils peuvent s'adresser, à qui ils peuvent poser des questions beaucoup plus librement que quand on a un professeur qui représente un peu le savoir où la différence de statut, elle peut être plus compliquée.
Mais est-ce que c'est problématique de se référer à quelqu'un qui est plus âgé que nous, qui a plus d'expérience que nous ? Est-ce que c'est
au contraire. Non, l'idée, c'est justement de permettre des interactions multi-âges, quoi. Justement, autant enfants et adultes, et de profiter de l'expérience de tout le monde. Après, l'idée, c'est de sortir de sortir du fait de décider ce qui est bon pour les gens à leur place, en fait.
Mmh. Qu'en est-il de, même si j'aime pas beaucoup ce terme, qu'en est-il de la discipline ou de la gestion des conflits dans ce type d'école-là ?
Bah justement, c'est hyper intéressant parce que le cadre, il est porté collectivement. Il y a un cadre qui est assez strict, hein, en fait. Il y a des règles qui sont posées à partir du moment où on vit en collectif, on a besoin de règles. Et en fait, il y a une instance de justice dans l'école qui traite les cas de transgression et qui du coup va poser des sanctions, va aller chercher qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, va travailler aussi sur les émotions qui naissent des conflits entre les gens ou du fait de situations problématiques. Et en fait, l'idée, c'est que cette instance de justice, elle est gérée collectivement avec des enfants et des adultes et que ça tourne et qu'en fait, tous les membres de l'école vont être amenés à rendre justice à un moment donné et du coup à passer... des deux côtés, quoi, du côté de ceux qui font appliquer les règles et de ceux qui parfois les transgressent, parce qu'en fait, on les transgresse tous à un moment donné. Et voilà.
Donc, dans une école démocratique, si j'entends bien, il y a tout de même un règlement intérieur qui existe ou voilà.
Bien sûr.
Donc, c'est pas de la.
L'anarchie non plus. La liberté ne va pas sans la responsabilité. Et en fait, l'intérêt, enfin voilà, l'objectif de pouvoir proposer aux gens dans cette école de disposer de leur temps, c'est aussi dans le respect des autres, du matériel, de l'environnement, et d'apprendre à le faire de manière responsable. L'idée, c'est vraiment d'acquérir cette responsabilité pour pouvoir user de notre liberté, quoi.
Autonomie des enfants, quel est le rôle et la place des parents dans ce type d'école-là ? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire, une influence ? Ils sont amenés à participer ? Et oui, si oui, de quelle manière ?
Alors, l'idée, c'est que c'est vraiment un espace pour les enfants, où ils vont pouvoir... où ils vont pouvoir vivre leur vie sans forcément que les parents interviennent. Après, nous, l'idée, c'est que l'équipe, elle ait des interactions régulières avec les parents pour justement parler de ce modèle d'école et parler de comment ça se passe pour eux, de ce qui... comment ils s'approprient aussi la philosophie de l'école. Et après, il y aura certainement des invitations pour des événements à vivre ensemble avec les parents, les enfants. Et peut-être aussi, l'idée, c'est aussi d'être une école ouverte sur le monde, ouverte sur... les compétences que les gens ils ont envie de partager, les savoir-faire. Et donc, à ce titre-là, si des parents ont des savoir-faire, des envies de partager des choses, ils pourront venir dans l'école, mais pas en tant que parents, en tant que personne qui a des savoir-faire à partager.
Facilitateur aussi.
Ouais, alors ce ne sera pas des facilitateurs, mais des invités, quoi.
Vous restez avec nous, Claire Bataillé. On écoute l'agenda de la semaine et juste après, vous nous direz où en est concrètement ce projet d'école démocratique qui verra bientôt le jour, je l'espère pour vous, bientôt le jour dans le Tarn. Info service de CFM, c'est tout de suite.
CFM.
L'agenda de la semaine.
Alors, en ce mardi, tout d'abord, je vous rappelle cette belle expo qui a lieu en ce moment aux archives départementales du Tarn à Albi, une expo consacrée au photographe albigeois du XXe siècle, Georges Groc, un artiste méconnu et à contre-courant de son époque, et vous pouvez aller voir ses nombreux clichés et également découvrir la vie de ce personnage hors du commun. L'expo sur Georges Groc, c'est en ce moment aux archives départementales du Tarn, c'est ouvert tous les jours de la semaine et profitez-en, c'est gratuit. Et maintenant, une fois n'est pas coutume, on va parler cinéma puisque le Club Ciné de Carmaux organise cette semaine la 3e édition du Festival du cinéma social et ouvrier. Et ça commence jeudi. Un film par jour est programmé pour l'occasion et vous pourrez également rencontrer et échanger avec les metteurs en scène présents sur place. Et je vous invite bien sûr à faire un petit tour sur le site cinéma-carmaux.fr ou sur la page Facebook du Club Ciné de Carmaux pour en savoir plus sur ce Festival du cinéma social et ouvrier qui aura lieu, je vous le rappelle, cette semaine. Allez, pour la suite des festivités à faire cette semaine, on revient du côté d'Albi car il y a une belle soirée de concert qui vous attend cette semaine à l'Athanor, ce sera jeudi. L'Athanor d'Albi qui fait sa rentrée avec une belle affiche, trois groupes sont programmés, Manu Digital et Joseph Cotton, qui sera suivi par Kiwanja et pour finir en apothéose, il y aura Totem Crew. Ça commence à 20h30 jeudi à l'Athanor, c'est gratuit pour les étudiants et pour les autres, l'entrée est de seulement 5€. Et je finis par un concert qui aura également lieu cette semaine, ce sera vendredi au Petit Café des Cabanes. Et sachez qu'une fois par mois, le Petit Café des Cabanes organise une soirée Jazz Club en partenariat avec l'association Jazz 81 basée à Albi. Et du coup, ce sera le groupe Jazzland qui vous régalera les tympans vendredi soir au Petit Café des Cabanes. Ça commence à 19h30, vous pouvez bien sûr manger sur place et pour cela, n'hésitez pas à les contacter pour réserver.
Et voilà pour l'agenda de cette semaine. Hein. C'est une synthèse des principaux rendez-vous dans le nord du Tarn. Claire Bataillé est toujours avec nous. Je vous rappelle qu'elle est venue nous présenter ce projet d'école démocratique dans le Tarn. Un projet autour duquel, Claire, sont rassemblés, j'imagine, plusieurs parents ou plusieurs adultes. Combien de personnes sont vraiment investies dans ce projet ?
Alors, en fait, on est trois porteuses de projet à vraiment le construire. Et après, on a effectivement... un certain nombre de parents qu'on a rencontrés au fil de nos réunions publiques. Mmh. Et du coup, on a une centaine de familles aujourd'hui qui nous suivent et dont certains commencent à prendre un peu des responsabilités dans le projet. Mmh.
Mais comment tout ça a commencé ? Excuse-moi de te couper. D'où c'est venu, là, de créer une école démocratique dans le Tarn ? C'est quelqu'un qui a été traumatisé par sa scolarité ou c'est quoi ?
Non, en fait, on est dans les trois porteuses de projet. Là, on est toutes les trois issues du milieu de l'éducation et de l'animation. Donc ça fait un moment qu'on travaille dans des collectifs avec des enfants et où du coup on a un peu affiné ce qu'on avait envie de leur proposer en fait en termes d'espace éducatif. Et donc c'est né un peu de ça et puis c'était le moment pour nous. Et puis en fait c'est vrai qu'on a été aussi rattrapé par le mouvement de l'éducation démocratique en France là, qui explose et qui se structure. Et donc, on a rencontré aussi plein d'autres porteurs de projets, plein d'autres facilitateurs qui sont dans des écoles, etc. Mmh. On a eu plein d'échanges et ça nous a aussi bien... ça nous a confirmé l'envie qu'on avait de faire exister ça dans le Tarn.
Les écoles alternatives, outre les écoles démocratiques, se développent pas mal. Mmh. Je pense notamment aux écoles Montessori, les Calandretta, qui sont aussi une forme d'alternativité dans l'éducation. En école démocratique, il y en a une qui a ouvert, je crois, l'an dernier, en Haute-Garonne, à Verfeil. Oui. Est-ce que vous avez été allé voir, discuter, rencontrer les personnes de cette école-là ?
Ah oui, on les connaît bien, en fait. Enfin, on est en contact assez proche avec, de toute façon, tous les porteurs de projets et écoles en Midi-Pyrénées. Mmh. Il y en a une autre à Montauban qui est ouverte, là, depuis 2 ans. Et puis, on les connaît bien. Oui. Mmh.
Vous avez déjà défini où est-ce que vous souhaiteriez monter cette école, sur quelle commune, par exemple ?
Eh bien, on cherchait un lieu. Et puis, du coup, là, ça fait quelques mois qu'on travaille avec la mairie de Rivière pour voir si on peut s'installer à Rivière, là, juste à côté de Gaillac. Mmh. On attend encore la réponse du conseil municipal, mais ce serait notre souhait.
Ok. Les relations avec l'éducation nationale, quelles sont-elles ? Parce que l'éducation nationale a quand même son mot à dire, non, pour l'ouverture d'une telle école ?
L'idée, c'est que, comme toute école, il y a l'inspection pédagogique qui vient contrôler ce qui se passe et puis qui vient parler avec nous de notre projet éducatif et pédagogique. Donc, on va être en lien. Là, on ne l'est pas encore parce qu'on n'est pas ouvert et que on attend d'avoir un lieu pour pouvoir aller les rencontrer en prévision.
Ah oui, c'est à ce moment-là que ça se fait, la rencontre. Moi, je pensais que c'était peut-être en amont du projet, parce que s'ils viennent et ils vous disent « Ben non, là, ça ne va pas vous fermer, vous faites comment ?»
En fait, l'inspection pédagogique, elle vient à partir du moment où l'école est ouverte, donc pas en amont. Après, en amont, c'est la mairie, par contre, la collectivité qui a la compétence école, en tout cas, qui autorise l'ouverture d'une école en fonction du respect des normes de sécurité des locaux, essentiellement.
C'est le principal critère. La suite pour vous aujourd'hui, c'est quoi ?
Nous, c'est de confirmer ce lieu et puis, euh, et puis puis voilà, en fait, à partir du lieu, on peut tout faire, quoi. Et le mettre aux normes, et puis on peut ouvrir, en fait. Enfin, on peut ouvrir. Après, il faut juste enchaîner les démarches administratives. Mais voilà, sans avoir la confirmation du lieu, c'est compliqué de...
d'avancer.
Ouais, après, bon, nous, on continue.
Il y a assez de parents qui semblent être intéressés pour inscrire leurs enfants dans ce type d'école-là.
Bah ouais, ouais. Comme tu le disais, il y a une vraie demande parce qu'en fait, il y a un besoin d'évoluer dans l'éducation. Et du coup, on est aussi des écoles qui proposent d'autres modèles et ça intéresse parce que il y a des besoins, quoi.
Les alternatives, de toute façon, de nos jours, on en a besoin. Pour vous joindre, comment est-ce que l'on fait ? Il y a un site internet,
une
adresse.
On a un site internet, écoledémocratiquedutarn.wordpress.com.
Voilà,
une page Facebook, et puis voilà.
Permet de prendre contact parce que vous donnez différents rendez-vous dans le Tarn pour expliquer votre projet à ceux qui ne sont pas initiés à ce type de forme d'éducation. Merci Claire Bataillé d'être venue nous voir. Donc je rappelle que vous étiez avec nous dans le MAG pour parler d'un projet d'école démocratique qui verra peut-être le jour à Rivière si j'ai tout retenu, quoi. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Merci d'être venue au micro de CFM, le MAG du Tarn. C'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec avant le flash info. Je vous propose d'écouter un titre du chanteur éthiopien, une immense star en Éthiopie qui s'appelle Djirma Beyene et qui est là accompagné par le plus éthiopien des groupes français, c'est Akale Ube. À suivre sur CFM, c'est le flash info.
Kan yele lebish kibriske rasish sitinas kibari enene baymanish alawiye mti grunding ye honsh wizerit Ethiopia mentitab kyalish Fitzum Ethiopia wit Anama di mama Wizerit Ethiopia Konjit ene name by Tramach would it fit Wichiba de babai Enika we malin Anchin bakuf we miai Wait, I know my dear mama. wizard in Ethiopia. Conjit in a name by Teramage, Teramage with a beat. We keep up the baba and the cow and malin. Anjin, but if we meet.
CFM, CFM, Nord-Midi-Pyrénées, la voix des pays au son du rock.